Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Comme tous les samedis, vous avez la grande chance de vous informer un peu sur l'actualité scientifique. C'est Biotine, l'émission de science qui va bientôt fêter ses 15 ans d'ailleurs sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël pour cette émission et je suis très content de retrouver Carole sur l'antenne. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à nos auditeurs.
La semaine dernière, nous n'avons pas pu développer toute l'actualité scientifique. Il y a finalement pas mal de choses qui vont être encore intéressantes lors de cette émission. Vous souhaitez bien sûr réagir, eh bien, vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, Instagram. Je vais y arriver, c'est l'heure du déjeuner, c'est pour ça que je bug un peu. Et c'est pas que l'heure du déjeuner, j'oublie toujours de dire que nous avons la rediffusion de l'émission le mardi matin à 10h.
C'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai déjà écouté d'ailleurs l'émission à cette occasion.
Pas. Alors bien sûr, là nous sommes dans l'émission du samedi et précisément le 16 septembre. On va faire l'éphéméride dans un instant, mais évidemment, c'est un peu frustrant pour nos amis auditeurs qui nous écoutent un mardi matin parce qu'on leur parle tout le temps de déjeuner et de
c'est
samedi.
C'est vrai.
Ils ont dit, mais non, on est mardi, il est juste 10h. Bon, effectivement, bienvenue à nos auditeurs du mardi matin, j'oublie toujours. Et puis, ça se trouve, vous nous écoutez à n'importe quelle heure, même en pleine nuit, parce que vous avez bien sûr les podcasts que vous pouvez récupérer sur ce nouveau site. Non, il date déjà depuis quelques mois, mais enfin, en tout cas, sur le site internet de Graphite, avec la possibilité, bien sûr, de récupérer les podcasts de toutes les émissions. Nous sommes donc le 16 septembre aujourd'hui. C'est la journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone. C'était déclaré par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1994. Et on s'en souvient, Carole, de cette époque où on ne parlait que de la couche d'ozone.
Oui.
On ne parlait pas de réchauffement climatique à l'époque. On ne parlait pas de gaz à effet de serre, c'est venu après, mais la couche d'ozone, effectivement, ça date de ces années-là. Il y avait la signature en 1987 du protocole de Montréal. Et finalement, on sait que ça a été plutôt bénéfique parce que cette couche d'ozone, on a pu la restaurer, pouvoir la réparer par des actions concrètes. Alors maintenant, c'est passé un petit peu en retrait par rapport à une actualité plus liée au gaz à effet de serre, bien sûr, mais donc on reste toujours sur une commémoration de cette journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, parce que évidemment, le combat doit continuer, bien sûr, pour pouvoir la préserver. Naissance de Raoul Dautry. Il est né donc un 16 septembre, c'était en 1880. Il est né à Montluçon dans l'Allier et il était ingénieur, dirigeant d'entreprise publique, homme politique français. Il met au point en 1914 un système de circulation des trains qui vont permettre aux renforts de se rendre sur le front de l'Est. 1914, c'est la bataille de la Marne, bien sûr. Il occupe d'importantes fonctions dans les chemins de fer. Directeur général de l'administration des chemins de fer de l'État, hein, ce n'était pas la SNCF à l'époque, on est dans les années 20, les années 30, et lors de la création de la SNCF en 1938, il devient membre de son conseil d'administration. Raoul Dautry, tu me disais que tu connais, toi, un lycée Raoul Dautry.
Oui, tout à fait, à Limoges, puisque je suis originaire de cette ville.
Eh bien du coup, oui, il y a un lien avec les chemins de fer et Limoges, enfin, toute façon, avec la ligne, le POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Donc du coup, effectivement, Limoges est un point important en termes de chemin de fer et effectivement, on peut comprendre. Alors, il est né dans l'Allier, il est mort dans le Vaucluse, mais peut-être qu'il s'est arrêté à un moment dans le Limousin, il n'y a pas de raison.
C'est possible.
Voilà. Donc, Raoul Dautry, qui est donc né un 16 septembre. Décès le 16 septembre 1736. Nous sommes donc au début du 18e siècle. C'était l'apogée de Gabriel Fahrenheit. Ah, Fahrenheit, oui, ça nous dit quelque chose quand même. Physicien allemand, il est bien sûr à l'origine de l'échelle de température qui porte son nom. Une échelle de Fahrenheit qui était largement utilisée en Europe jusqu'à la Révolution française et elle fut graduellement remplacée par celle que l'on connaît désormais, l'échelle Celsius. Mais elle est quand même encore souvent utilisée dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis où elle est l'échelle officielle. C'est pour ça qu'on est des fois un petit peu perdu dans les conversions entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius. Daniel Gabriel Fahrenheit a décidé de définir son échelle par deux températures de référence. La première, c'est une température basse qui sera la plus basse mesurée durant un hiver assez rude, l'hiver 1709, dans sa ville natale de Danzig. Et plus tard, en laboratoire, il a atteint cette température lors de la solidification d'un mélange mélange d'un volume égal de chlorure d'ammonium et d'eau. Un peu compliqué quand même pour définir la température basse. Par contre, pour la température haute, pour son échelle, c'est plus simple, c'est la température du sang du cheval. On va savoir pourquoi. Mais en tout cas, le
alors, je ne savais pas ça, oui.
Voilà, le bas est un peu plus compliqué scientifique. Le haut, je pense qu'il en a eu un peu ras-le-bol. Il s'est dit, bon, allez, on va prendre la température du sang du cheval et ça fera la température de référence pour son échelle de Gabriel Fahrenheit, dont on commémore donc aujourd'hui le décès le 16 septembre 1736. Lors de l'émission de la semaine dernière, l'émission de la rentrée de septembre de cette nouvelle saison, finalement, on n'a pas eu le temps d'évoquer toute l'actualité qui a été scientifique, technologique, médicale, au cours de ces deux mois d'été. Et il y avait notamment cette information qui est liée, bien sûr, au tsunami qui a dévasté le nord-est du Japon en 2011, en mars 2011, il y a déjà 12 ans, oui, des vagues fait, oui. gigantesques, parfois plus de 30 mètres, qui vont se fracasser sur la côte. Et à Fukushima, eh bien, cette déferlante, elle fait 15 mètres, mais c'est quand même suffisant pour mettre hors service les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire. Ça va provoquer la fusion de 3 des 4 réacteurs. Il y a 140 tonnes d'eau par jour qui sont nécessaires à leur refroidissement. Elles ont été contaminées, ces tonnes d'eau, par les éléments radioactifs. Il a fallu ensuite les entreposer. Et donc, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 536 piscines olympiques qui dorment dans des cuves, soit 87% de la capacité d'entreposage du site. Et donc, du coup, on est à une saturation. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau contaminée ? Eh bien, le coup près tombe il y a 2 ans, c'est le rejet progressif dans le Pacifique. On va étaler ce rejet progressif des eaux contaminées de Fukushima sur une durée de 40 ans. Et parce que, voilà, on essaye de modérer les choses, on va dire. Alors, le Japon met au point un système de filtration parce qu'il n'est pas question de relâcher cette eau contaminée telle qu'elle. Et donc, c'est un système de filtration par absorption qui va permettre de débarrasser l'eau de certains nucléides qu'elle contient encore, donc des éléments radioactifs. Et à l'exception du carbone 14 et à l'exception du tritium. Et en fait, le problème, c'est ce tritium qui inquiète parce que si on le lie à des molécules organiques, il peut présenter un risque pour la santé. Alors, le Japon a sollicité l'Agence internationale de l'énergie atomique et son rapport qui a été rendu en juillet estime le projet conforme aux normes de sûreté internationale, ce qui veut dire que la radioactivité de l'eau ne doit pas dépasser les 60 000 becquerels par litre et la radioactivité des eaux de Fukushima ne devrait pas dépasser les 1500 becquerels. C'est peu, mais c'est quand même toujours trop, en fait, pour rassurer notamment la Chine et les différents pays voisins du Japon. D'après un sondage, par exemple, 80% des Sud-Coréens redoutent les conséquences du rejet de l'opération, au point que des habitants affolés ont décidé de faire des stocks de sel, ce qui provoque une pénurie.
Et c'était déjà arrivé, petite parenthèse, mais c'était déjà arrivé quand, évidemment, l'accident de Fukushima s'était produit. En fait, à chaque fois qu'on identifie un risque nucléaire, c'est vrai que les gens se jettent sur le sel, puisqu'il est censé contenir de l'iode et donc protéger justement notamment la thyroïde des radiations. Alors en réalité, il faudra absorber énormément de sel pour pouvoir être protégé. Hein. Donc, mais c'est vrai que oui, non, mais c'est des mouvements de panique qu'on a vraiment observés à chaque fois.
On est sur on ne peut pas maîtriser ça, en fait. Hein. Donc, fatalement, la panique peut se comprendre. On est sur un manque flagrant d'informations, tout simplement.
Oui.
On en vient toujours au même sujet. Là, voilà. Donc, il y a le rejet des eaux contaminées de Fukushima. Des risques, peut-être, pour la santé. On le saura après.
On le saura après. Alors j'avais du coup essayé de chercher moi des réactions aussi en France parce qu'on voyait du coup les médias relayer le fait que en effet autour du Japon les pays voisins forcément n'étaient pas ravis. Bon alors néanmoins maintenant on vit quand même tous sur la même planète hein, donc sur des sujets comme le nucléaire on sait quand même bien qu'à un moment ça peut quand même impacter beaucoup plus loin et donc c'était notamment un scientifique français maintenant pareil je ne vais pas le nom va m'échapper mais qui était plutôt rassurant justement en s'appuyant sur les chiffres, en expliquant qu'en effet, c'était pas... alors, il y a un petit côté quand même, on est au pied du mur, mais que c'était ce qui paraissait la meilleure solution, mais ça a été mûrement réfléchi. En fait, ils ont fait aussi intervenir des spécialistes du nucléaire de par le monde. Donc évidemment, la France a joué son rôle, parce qu'on connaît les avancées techniques de notre pays sur le sujet. Donc ils se voulaient rassurants.
Là, on est sur un relargage de cette eau qui est donc jugée conforme aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et on va relarguer cette eau sur une durée de 40 ans.
Oui.
On n'est pas sur un relargage, j'ai dit combien, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre, de cette quantité astronomique d'eau. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne, mais en tout cas, oui, 536 piscines olympiques, on ne va pas les relarguer tout de suite d'un seul coup comme ça dans l'océan.
Non, par contre, ce que moi, je n'avais pas en tête, c'est qu'au final, ils continuent d'avoir besoin d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont aussi obligés de l'évacuer parce que là, ils continuent de s'en servir et il y a des réparations qui continuent de se faire. En fait, tout n'est pas stabilisé finalement dans la centrale. Et donc, alors après, c'est pareil, il y aura de nouveau en fait de l'eau contaminée à venir. Donc c'est une première solution sur ce qui avait été accumulé, mais de toute façon, on en a encore besoin. Donc c'est pareil, c'est de la création de déchets radioactifs.
Et on est sur une échelle de temps assez longue en fait.
Oui.
Et
ouais,
donc du coup, tu étales le problème entre guillemets. C'est,
oui,
c'est clairement ça. Mais voilà, là encore, on n'a pas nécessairement de trop de débats sur ce genre de sujet.
Mm-mm.
Et là encore, comme je le dis régulièrement dans cette émission, on est une émission de médiation, on vous donne l'information, c'est pas nous de vous dire c'est bien, c'est pas bien. On vous donne l'information, on fait en sorte que vous puissiez vous-même vous forger un propre avis. Dans le cas de Fukushima, ce qui est intéressant, moi j'ai été prestataire d'EDF pour des centrales nucléaires, ce qui était intéressant, c'est que quelque part ce malheur a permis, notamment pour les centrales françaises, de trouver des solutions pour que ça ne se produise pas en France. La difficulté, donc c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu de l'eau qui a totalement flingué les services, les dispositifs de refroidissement. C'est ça qui a été le problème. Il y a une fusion nucléaire dans le sens où on n'a pas pu refroidir parce que tout a été inondé. Et du coup, ce qui a été mis en place dans toutes les centrales nucléaires françaises, c'est des dispositifs de refroidissement par le biais de moteurs diesel surélevés. Pour justement, et notamment dans la vallée du Rhône, où je ne sais plus le nom du barrage dans les Alpes, où on s'était dit si ce barrage, pour une raison ou une autre, cède, le niveau de l'eau monte et ainsi de suite. Et donc du coup, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour pouvoir avoir une idée de la hauteur minimale pour ces dispositifs de refroidissement. Là, c'est clairement un dispositif de refroidissement qui a été éteint et donc du coup ça s'est emballé ainsi de suite, donc
ouais,
c'est encore une catastrophe je pense qu'on n'y avait pas pensé en fait à ça.
Mm-hmm. Oui.
Et malheureusement le malheur arrive, on trouve des solutions alternatives et tout a été mis en place, je dis en France mais je pense que c'est en fait dans toutes les centrales nucléaires du monde et notamment aux États-Unis où voilà, il y a eu un dispositif pour dire bon ok, ces systèmes de refroidissement on va les mettre, faire en sorte que s'il y a une inondation ça continue encore à fonctionner pour qu'il n'y ait pas une catastrophe de Fukushima. Donc ce qu'il faut dire c'est que de tous ces malheurs on en tire quand même des informations et des solutions pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça devienne totalement invulnérable.
Après, voilà, débat philosophique. Y a-t-il une installation humaine totalement invulnérable ? Mais en tout cas, oui. À chaque fois, ça fait évidemment évoluer la sécurité.
Le débat sur le nucléaire est un débat faussé en France et c'est fort dommage parce que je trouve que c'est un vrai sujet très intéressant qui a été survolé lors de la dernière présidentielle et ça a été très malheureux. J'en avais parlé, j'avais fait une émission justement sur Biotine, j'avais abordé ce sujet-là parce que très peu de politiques qui se présentaient à l'élection présidentielle, donc pour destiner pendant 5 ans, notamment la politique énergétique de la France, avaient abordé ce sujet-là. C'est un vrai sujet de fond et c'est pas juste pour contre le nucléaire, c'est pas le sujet, c'est beaucoup plus on est sur une transition énergétique et comment, quelle piste doit-on choisir ? Eh bien c'est aux citoyens de la choisir, mais il faut leur donner les moyens. Là pour l'instant le débat n'existe pas. Donc il y en a qui sont pro-nucléaire, il y en a qui sont anti-nucléaire, il y en a beaucoup qui ne savent pas et c'est normal, on leur a jamais expliqué ce que c'était.
Ouais, bien sûr.
Donc, bien sûr, ils ont cette information qu'on vient de dire sur Fukushima, ce qui est catastrophique, bien sûr. Je n'ai même pas D'ailleurs, on ne saura peut-être jamais les répercussions en termes de personnes mortes. D'ailleurs, je ne sais même pas. J'ai pas retrouvé. Enfin,
on
ne sait plus, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais c'est des sujets qu'on doit mettre sur le devant de la table. Et si on ne veut pas de nucléaire, qui peut être une décision qui a été prise, par exemple, en Allemagne, on doit donc remplacer ce nucléaire par autre chose. Par quoi ? ça peut être par des énergies fossiles. Ok, dans ces cas-là, il y a un autre débat. C'est intéressant, en fait, je trouve. Et puis, il y a un troisième débat qu'on ne comprend pas, c'est, enfin, qu'on n'ose pas mettre en place, c'est a-t-on besoin d'autant d'électricité ?
Ah oui, bah alors.
Est-ce qu'on peut mettre en place une vraie politique de sobriété énergétique ? Eh ben, ça va être difficile avec les nouveaux véhicules électriques, par exemple. Bah, tu vois, il y a plein de choses. Et puis, tout le monde va dire, ah ouais, il faut qu'on dépense moins d'électricité, mais tout le monde va te le dire avec le portable que tout le monde charge sur... voilà, enfin, c'est un débat sans fin et qui serait malheureusement intéressant à mettre en place. Donc là, voilà, il y avait une information que je voulais quand même aborder parce qu'elle a été... Ça a été dit quand même dans les médias. On a écouté rejet des eaux usées, j'allais dire des eaux contaminées.
Des eaux usées, oui.
Des eaux contaminées de Fukushima, ça a été évoqué. Ça a démarré fin août. Et parce que du coup, la décision qui a été prise il y a 2 ans, on en avait parlé à l'époque parce que, bon, c'était une décision qui avait du sens. Là, maintenant, on arrive sur du concret et en fait, le débat n'a toujours pas évolué. Et c'est fort dommage. J'ai parlé hyper longtemps, j'en suis désolé.
Mais c'était très intéressant.
Alors que tu as l'article sous les yeux, il fait une demi-page.
Mais parce qu'il y a beaucoup à dire. Et puis c'est vrai que moi, si je me place aussi du point de vue justement des autres pays, parce que là, peut-être qu'après en France, ça s'arrête là parce qu'on se sent loin, etc. Alors est-ce que c'est parce que j'ai vécu en Chine et que j'y ai vécu justement l'année où Fukushima a eu lieu ? Mais en fait, ça crée du coup des tensions géopolitiques, etc. Mais ce qui est logique, parce qu'en fait, c'est pas une décision collégiale entre les pays. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu beaucoup d'experts qui ont été visiblement mandatés. Il y a eu d'autres solutions. Alors, pareil, il y avait un article qui détaillait. Ils ont envisagé quand même d'autres choses.
Oui, bien sûr.
Parce que là, on pourrait dire, bon, bah, c'est très simple, ils se sont dit, allez, on va. Non, non.
Ah non, oui, c'est vrai, ça je ne l'ai
été...
pas dit.
Non, 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 mais ça a été étudié. Oui, oui. Et finalement, ils se sont rendu compte que. Alors, c'était aussi un petit peu faute d'autres solutions viables, mais en évaluant vraiment que pour, en tout cas par rapport au seuil, le risque était maîtrisé. Mais en fait, les autres pays autour n'ont jamais pu donner leur accord ou être associés, etc. Bon, alors après, on sait que, vu la politique et les relations entre ces pays-là, ça aurait été compliqué. Il y a déjà beaucoup de tensions.
Qui n'arrange pas non plus, on va
voilà.
dire.
Et en fait, donc moi, je comprends aussi la réaction, j'allais dire, du peuple chinois. Enfin, pas bon, les dirigeants sur un volet un peu différent. Mais voilà, qui subissent, en fait, et ont subi. Et ce qui est... Bien sûr, gros débat sur le nucléaire. Je pense qu'il faut comprendre aussi scientifiquement de quoi on parle, etc. Mais c'est vrai que ce qui est à chaque fois dramatique, et c'est d'où le côté catastrophique aussi, c'est de voir en fait que ça va finir par impacter des gens qui, de toute façon, n'y peuvent rien. On n'a pas de levier d'action. On vit à côté. C'est-à-dire, demain, il y a une catastrophe. En effet, bah, plus on est loin, j'allais dire, plus on a de chances de pouvoir être hors de portée des radiations, en fait. Mais le nucléaire, le problème, c'est qu'on va impacter beaucoup de monde. C'est pas comme une usine, je repense à AZF, ou voilà, une pollution chimique, des choses plus localisées. Là, on parle quand même, des fois, à mon avis, de contaminer des kilomètres et des kilomètres de terre.
On est sur des pays, une échelle
de pays. Et de mer, du coup. Enfin là, on est de l'environnement global, mais je veux dire que les gens ne puissent plus vivre. Et c'était de ça aussi qu'il parlait dans les articles, du fait qu'il y avait des zones toujours inaccessibles pour les habitants. Il y a des endroits qui ont été... En fait, ils sont allés racler le sol, enfin racler tout ce qu'ils pouvaient pour redonner une possibilité d'être... Enfin, que ce soit habité dans certains endroits. Voilà, il y a certainement une zone qui restera interdite. Et en fait, ils expliquaient justement si les gens revenaient... Au global, ils ne reviennent pas, mais il y a quand même quelques personnes... De par la culture japonaise, qui ne peuvent pas quitter la terre sur laquelle ils ont vécu. Donc voilà, il parlait de ça, ce qui était aussi très intéressant. Je digresse, pareil, on s'éloigne, mais c'est juste pour dire que ça a des impacts vraiment à tous les niveaux. On part de quelque chose de scientifique, d'une technologie que l'homme a créée et qui après.
Il y a des vrais. Alors, je ne peux qu'inciter. Il y a les journées du patrimoine bientôt. J'ai plus les dates. Peut-être le week-end prochain, je crois.
Oui, c'est le. Alors, non, c'est ce week-end.
C'est ce week-end. Nous sommes le 16 septembre.
Tout à fait. C'est ce week-end.
Alors, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais il y a également les journées de l'industrie électrique, je crois, les JIE de mémoire. Tout ça pour dire que les centrales nucléaires ouvrent leurs portes au grand public pour visiter.
Ah, c'est intéressant.
Je ne peux qu'inciter les gens à visiter une centrale nucléaire pour comprendre ce que c'est. Mm-hmm. Et ensuite, on se fait son avis. Pas avant. Et là, voilà, on comprend et on a tous les éléments d'un point de vue le plus... avec une neutralité du discours. Et c'est ça qui est intéressant dans ces visites. Je le sais parce que j'ai géré une équipe de conférenciers, donc je sais très bien le message qu'ils devaient dire. C'est un message d'une neutralité purement informatif. Mm-hmm. En faisant en sorte que vous puissiez comprendre. C'était ça l'objectif. Et à partir de là, vous vous faites votre propre avis. Visiter une centrale nucléaire, je crois qu'au niveau des journées du patrimoine, ça fonctionnait. Les journées de l'industrie également, je crois que c'est plutôt au printemps. mais il y a également ces journées spécifiques de portes ouvertes, on va dire, des centrales d'EDF. Renseignez-vous pour pouvoir les visiter, c'est passionnant. On va, je te laisse la parole. Je te dis tout simplement, comme je sais que tu as un article assez long, si tu souhaites faire une pause en plein milieu pour mettre une peu de musique,
peut-être.
C'est toi qui vois.
Oui, peut-être.
Tu
on
pas
fera une petite pause parce que le sujet est dense.
Parce que le sujet est dense.
Tout à fait.
Et tu nous emmènes un peu.
Alors ailleurs et justement dans ces ailleurs, des fois qu'on imagine. Alors il y a ces films, ces séries sur les univers, j'allais dire extraterrestres, ces autres planètes qui sont très loin. Là, évidemment, on a des choses foisonnantes. Mais donc là, c'est les vraies découvertes actuelles. Donc hors ou dans notre système solaire, et là on va regarder hors de notre système solaire, si on a été capable en fait de détecter des lunes. Donc on va parler des exolunes. En fait, cet article que donc j'ai trouvé dans Science et Avenir, il part de la question d'un lecteur qui se demande, dans la présente course à l'identification de planètes localisées dans la zone habitable. Alors voilà, je ne savais pas qu'on parlait d'une zone habitable, visiblement qui va jusqu'en dehors de notre système solaire.
Ouais, c'est de voir si on peut trouver d'autres terres, entre guillemets, en fait.
C'est ça, exactement. Donc, mais qu'elle était aussi vaste, et exactement, oui. Tout à fait. Est-ce que l'on peut détecter si elles ont des lunes ? Donc voilà, donc tout ce que je vais vous raconter, ça part de cette question, puisque ces 30 dernières années, les astrophysiciens ont découvert plus de 5000 exoplanètes, mais parviennent-ils également à repérer des lunes hors de notre système solaire? Eh bien, on va tenter d'y répondre. Alors, c'est parti aussi, cet article et ces discussions, sur le fait qu'il y a un astre qui a été identifié, qui se situerait à 5600 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Il orbiterait autour d'une planète de la taille de Jupiter, nommée Kepler 1708b par les astronomes, qui gravite elle-même autour d'une étoile similaire au Soleil. Donc déjà, on a des bons indices qui nous donnent envie de creuser. Et selon des chercheurs de l'Université Columbia à New York, aux États-Unis, il pourrait marquer l'histoire de l'astronomie, donc cet astre, en étant identifié comme la toute première exolune, c'est-à-dire le satellite d'une exoplanète. Exoplanète, en effet, c'est hors du système solaire. Autrement dit, à l'instar de notre compagnon céleste, la Lune. Donc une autre Lune, mais qui soit donc en dehors de notre système solaire. Alors là, c'est David Keeping, qui est l'auteur principal de l'étude, qui nous raconte un petit peu les recherches. Ça fait 15 ans qu'il traque ce type d'objet, et il leur a fallu 4 années pour passer en revue des dizaines de candidats possibles, jusqu'à débusquer ce qui s'apparente fortement à une lune extrascolaire. Si cette découverte se confirme...
Extrasolaire.
Oui. Oh là là, le lapsus. Merci, heureusement que tu es là. C'est pour voir si tu suis malgré la... Oui, c'est... Ben oui, on est en
une
septembre.
Une lune extrasolaire, c'est ça.
Extrasolaire, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc si cette découverte se confirme, elle permettrait de franchir une nouvelle frontière en astronomie et ouvrirait un champ de recherche extrêmement prolifique. Ce qu'il nous dit et ce qu'il souligne, c'est que les exoplanètes ont révolutionné notre compréhension des autres systèmes stellaires, mais elles ne constituent qu'une partie du tableau. En raison de leur abondance et diversité supposée, les lunes extrasolaires nous apprendraient elles aussi énormément de choses sur notre unicité et la manière dont ces systèmes se forment. De toute façon, on comprend bien qu'il y a un enjeu qui est vraiment global, qui n'est pas juste de dire « est-ce qu'il y a d'autres lunes ?» On va le voir d'ailleurs un petit peu après. Donc en fait, on dénombre quantité de satellites naturels déjà dans notre propre système solaire. Les planètes les plus internes, Mercure et Vénus, en sont certes dépourvues, mais la Terre en possède un et Mars 2, tandis que les géantes gazeuses Jupiter et Saturne en hébergent près de 80 chacune, sans compter ceux d'Uranus, là il y en a 27, et Neptune 14. Donc au total, ça fait plus de 200 avec des remarquables disparités. Si certaines lunes, à l'instar de Titan, alors voilà, ça c'est un nom connu, on en entend souvent parler, possèdent une atmosphère épaisse et des lacs d'hydrocarbures, d'autres comme Io sont agitées par une intense activité volcanique. D'autres encore, telles Encelade ou Europe, recèlent des océans subglaciaires qui pourraient abriter la vie. Donc là, c'est un autre chercheur de l'Observatoire de Paris cette fois-ci, Jean Schneider, qui nous dit « Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même pour les autres systèmes stellaires. Les exolunes doivent pulluler autour des milliards de milliards d'étoiles de la galaxie avec une richesse encore plus importante que ce qu'on a pu observer jusqu'ici. » Donc, mais alors que plus de 5000 exoplanètes ont été mises en évidence depuis 1992, aucune exolune n'a été formellement identifiée. Et c'est là où on se demande justement comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Alors déjà, pour détecter des exoplanètes, la méthode la plus utilisée est celle dite des transits. Alors là, il y avait un joli schéma dans l'article qui expliquait, mais ça consiste donc à observer d'infimes baisses de luminosité de l'ordre de 1% lorsque celles-ci passent devant leur étoile, un peu comme une éclipse. Le même phénomène devrait se produire quand les exolunes croisent la ligne de visée. Mais ces objets sont par définition bien plus petits que leur exoplanète, générant des mini-éclipses encore plus ténues. Donc, et puisque les deux astres, hein, donc la planète et sa lune, sont très proches l'un de l'autre, les deux signaux se superposent, ce qui rend la discrimination extrêmement ardue. C'est ça, c'est ce que nous dit aussi Virginie donc Battista de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc on sent aussi qu'il y a pas mal d'équipes différentes qui travaillent dessus. Les technologies disponibles induisent par ailleurs des biais observationnels. Oui, parce que c'est là où on se doute que interpréter ces signaux, les voir correctement, ça ne doit pas être si facile avec cette distance. Le télescope Kepler, par exemple, exploité par la NASA entre 2009 et 2018, et grâce auquel la majorité des exoplanètes a été identifiée, est ainsi limité par les dimensions de son miroir. Miroir qui fait quand même 1,4 mètre de large, et ce faisant sa résolution. Par la méthode des transits. Il est donc très difficile de dévoiler des objets globalement plus petits que la Terre. Or, à titre de comparaison, dans le système solaire, la plus grosse lune est Ganymède, satellite de Jupiter dont le diamètre équivaut à 40% de celui de la Terre. Donc on imagine que, évidemment, s'ils sont tous plus petits que la Terre, ils sont très difficilement détectables.
Le plus gros satellite est inférieur à la Terre en termes de...
C'est ça, le diamètre, okay. C'est 40% celui de la Terre.
Pas. D'accord. Donc, oui, c'est vraiment petit.
Oui. C'est pour ça que du coup, ce qui est logique, okay, dans peut-être notre imaginaire. Alors après, il y a des tailles assez...
D'accord, ok, mais c'est intéressant justement, ça nous donne un ordre de grandeur.
Exactement, et donc c'est pour ça que Kepler serait aveugle à toutes les lunes que nous connaissons en raison de leur taille et de leur distance par rapport au Soleil.
Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire qu'on ne les voit pas.
Oui, ça veut dire qu'on ne les voit pas et que pour l'instant, on n'a pas,
pas les outils
moyens,
nécessaires,
les outils.
C'est ce que disait l'article. Okay,
exactement.
D'accord.
Alors, je continue encore un peu, puis après, on pourra faire une pause musicale en nous laissant dans ce suspense. Mais déjà, donc, une dernière gageure provient de la méthode des transits elle-même. Elle est particulièrement efficace pour détecter des planètes très proches de leur étoile. Donc, il y a aussi ce paramètre-là. Donc, très efficace pour des planètes très proches de leur étoile. 80% des exoplanètes découvertes jusqu'à présent se situent à moins de 30 millions de kilomètres de leur étoile. Alors, c'est là où aussi on se dit, mais les étoiles, des fois, sont vraiment loin. Car ces astres présentent de très courtes périodes orbitales. Ils effectuent une révolution complète en quelques jours seulement, ce qui maximise le nombre de transits observables, donc ces fameux phénomènes, et les probabilités de les repérer. Mais ces exoplanètes sont aussi celles qui sont les moins susceptibles de posséder des satellites naturels, comme on le constate dans le système solaire avec Mercure et Vénus. Parce qu'en fait, à de telles distances, la force gravitationnelle de l'étoile, donc si on la compare au Soleil, hein, pour se rendre compte, est si intense qu'elle déstabilise les lunes éventuelles en les happant ou en les éjectant. Là, c'est le Francis Celsis qui nous parle de ça. Lui, il fait partie du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Pour décrocher une exolune, il faut donc se focaliser sur de très gros objets et des exoplanètes éloignées de leur étoile. Et avoir aussi énormément de chance, puisque ces dernières mettent plusieurs années, voire des dizaines d'années, à boucler une révolution. Bah oui, elles sont beaucoup plus loin. Et donc, pour observer les phénomènes, là, il faut être patient. Face à de telles difficultés, il n'est pas surprenant qu'aucune exolune n'ait été jusqu'à présent découverte. Alors, est-ce que c'est mission impossible ? Ben, je propose qu'on poursuive après le titre.
C'est tellement bien amené. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Graphite 94.9 FM.
Les personnes qui ont regardé la télé dans les années 60 connaissaient Denise Glaser. Et bien là, c'était Cherry Glaser. Il n'y a aucun lien du tout. C'était juste un jeu minable avec Soft Drink sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science qui vous emmène dans l'espace. Et on part à la recherche de ces exolunes, donc de ces satellites d'exoplanètes, donc en dehors du système scolaire. Solaire, bien sûr.
Tout à fait. Mais en cette rentrée, oui, le système scolaire.
Alors, c'est passionnant, on retourne donc là-bas, parce que là, en fait, on est revenu à notre dure réalité, mais oui. Retournons donc très loin, et c'est passionnant.
Eh bien, tout à fait, parce que du coup, donc, on vient de détailler en effet quelles sont les recherches à l'heure actuelle pour trouver donc, ces fameuses exolunes, puisque aucune n'a jamais été découverte. On vient d'expliquer un petit peu les méthodes, justement, pour les identifier, et face à cette complexité, on s'est demandé si c'était vraiment quelque chose de réalisable. Et alors, David Keeping, dont je parlais tout à l'heure, qui travaille avec ses collègues à l'Université de Columbia à New York, lui, il a fait de la chasse aux exolunes sa spécialité, ce qui veut dire qu'ils ont développé toute une méthodologie et des algorithmes d'intelligence artificielle visant à reconnaître diverses signatures. Publié en janvier 2022, le bilan de leur dernière enquête concerne 70 exoplanètes dont les transits ont été enregistrés par Kepler. Donc, elles ont été sélectionnées en raison de leur taille, semblables à Jupiter, susceptibles d'héberger des satellites imposants et parce qu'elles gravitent à plus de 240 millions de kilomètres de leur étoile. Parce que oui, j'ai expliqué que du coup, on ne pouvait pas regarder malheureusement trop près des étoiles puisque souvent ça happait les lunes potentielles qui peuvent graviter autour des exoplanètes. Voilà, donc on a plus de chances d'y trouver des lunes stabilisée quand on se trouve donc à une distance plus lointaine. Donc là, ils ont fait un énorme travail qui visiblement est très prometteur. Ils ont recherché deux types de signaux. Tout d'abord des mini-éclipses, mais aussi des petites variations sur le moment du transit. Donc ces décalages résultent du mouvement de rotation des lunes. Ça, c'est ce que nous détaille Frank Celsis qui faisait partie du coup d'une équipe à Bordeaux, et elles occupent diverses positions d'un transit à un autre en suivant ou précédant leur planète, par exemple, ce qui génère des signaux légèrement différents et non périodiques. Donc là, on imagine que c'est une analyse quand même un petit peu ardue de ces différents types de signaux, mais ils savent exactement, eux, en tout cas, quoi regarder. Et à la suite de ce travail, plusieurs prétendantes ont été décelées. Mais après avoir passé une batterie de tests, la plupart ont malheureusement dû être éliminées. Les baisses de luminosité pouvaient être confondues avec des artefacts. Donc c'est des bruits de fond, instrumentaux ou encore des irrégularités dans l'activité des étoiles, à l'instar des taches solaires. Voilà, on imagine qu'évidemment, à cette distance, c'est pas simple, qu'on est limité quand même avec notre technologie actuelle. Hein. Et au final, il n'en restait plus qu'une. On dirait un titre de film. Mais finalement, voilà, ça concerne une lune potentielle. C'est un signal têtu, ça c'est ce que nous dit David Keeping. Nos données montrent qu'il n'y a que 1% de chance que nous ayons affaire à une fausse alerte. Donc c'est pas mal. Selon les calculs, l'objet, donc baptisé provisoirement Kepler-1708-BI, se situerait à 740 000 km de sa planète, soit deux fois la distance Terre-Lune. Donc c'est ça aussi hein, en fait, c'est que voilà, il serait quand même loin, émettrait un peu plus de 4 jours à orbiter autour d'elle, contre près de 28 pour la Lune. 28 heures. 28 heures ou 28 jours d'ailleurs
28 jours,
hein, pardon. 28 oui, jours, non, 28 jours. Donc c'est quand même assez fou, je trouve. Non mais je reste, oui. Et surtout,
mais oui, c'est fou.
C'est fou. Et en plus, on a parlé de la difficulté d'identifier ces exolunes parce que souvent elles sont trop petites. Parce qu'avec nos dispositifs, voilà.
On n'a pas des outils assez puissants, je pense.
Exactement. C'est pour ça qu'on cherchait, on a dit, des objets de la taille potentiellement de Jupiter. Et donc là, ce Kepler-1708-BI ferait 2,6 fois le diamètre de la Terre.
D'accord. Ah oui, donc on est quand même sur une planète plus grosse.
Et qui en fait orbite.
Ah Kepler, c'est le satellite.
C'est le satellite. Lune. Oui, c'est le satellite.
Ah, on est sur une lune.
Une lune plus grosse que la Terre.
Plus du double de la Terre.
Et ah, qui oui, mettrait un peu plus de 4 jours. C'est pour ça que j'ai été perturbée.
Okay,
c'est-à-dire qu'il tournerait avec, finalement beaucoup
très
vite. Plus vite.
Ouais,
très
ouais.
vite. Voilà. Bon, les courbes de luminosité sont très nettes. Donc là, les scientifiques disent qu'ils sont plutôt convaincus. Qu'ils trouvent, alors là, il y a tout le monde qui s'exprime hein, dans tous ceux que je vous ai cités précédemment, que c'est un travail qui est remarquable, très prometteur, même s'il va falloir d'autres données pour le confirmer. Car les scientifiques américains n'ont pu se fonder que sur les deux seuls transits enregistrés par Kepler, ce qui est trop peu pour comparer finement les signaux, les variations sur le moment du transit en particulier. Il en faudrait au minimum 3. Et on l'a dit, sur des exoplanètes et dans des exolunes aussi lointaines, il y a moins de phénomènes justement de transit. C'est ça qui complique la chose. Donc David Keeping espère que les futurs transits de la planète, qui met par contre, tenez-vous bien là, 737 jours à compléter une période orbitale, c'est pour ça, apporteront bientôt des preuves décisives. Donc déjà, c'est un bon indicateur, mais il va falloir évidemment le confirmer. Donc là, ce sera à suivre. Bah, on attendra peut-être certainement un peu plus de 737 jours, le temps qu'ils analysent aussi leurs résultats. Et en fait, les exolunes, pourquoi est-ce qu'on est à ce point-là à la recherche des exolunes? Bon, on a envie de découvrir, bien sûr, tout ce qui se passe hors du système solaire, on a envie d'étudier les exoplanètes et donc tout ce qui se passe autour d'elles, leurs satellites, mais c'est surtout parce que c'est le meilleur endroit pour rechercher des vies extraterrestres. Une vie extraterrestre, donc autre que sur la planète Terre. Donc c'est même l'une des principales raisons, hein, c'est ce que nous dit Jean Schneider, pour qu'on les traque, bien plus nombreuses que les exoplanètes, même si on n'arrive pas à les détecter, elles augmenteraient en effet les probabilités pour qu'une forme de vie émerge autour d'une étoile. Alors que les géantes gazeuses de type Jupiter ou Saturne n'ont quasiment aucune chance d'abriter la vie, ces astres peuvent héberger des objets rocheux potentiellement habitables, comme on l'envisage dans le système solaire pour Europe ou Encelade. Parce que oui, on le sait, il y a aussi une étude au niveau des satellites de certaines planètes, donc dans notre système solaire. En 2018, des chercheurs de l'université du Queensland du Sud, en Australie, ont même démontré que les exolunes pourraient constituer des havres super habitables, encore plus favorables à la vie que la Terre. Ces satellites bénéficieraient de plusieurs sources d'énergie pour alimenter une biosphère. Outre celle fournie par l'étoile, ils tireraient profit de la lumière et de la chaleur émises par leur planète, ainsi que des forces de marée générées par celle-ci. Voilà, donc voilà la vraie raison. Voilà ce qu'on recherche aussi, du coup, sur ces exolunes très, très loin de chez nous.
Mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui définit la vie?
Alors là, je pense qu'ils cherchent vraiment toute forme de vie. Hein. Je pense que ça peut englober. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches des fois sur de l'eau déjà, parce qu'on sait que c'est un des premiers signes. Je pense que ça va plus loin que ça, évidemment, mais ça va être tous ces fameux indicateurs qui laisseraient penser qu'il pourrait y avoir de la vie. En tout cas, il y a des conditions qui sont connues pour être favorables à l'émergence de la vie.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on considère qu'il faut qu'on trouve les mêmes conditions pour avoir le même... le même type de vie, entre guillemets, je m'exprime mal, mais oui, c'est-à-dire que on a toujours l'impression que l'extraterrestre, s'il existe, il va avoir un système respiratoire, un système sanguin, enfin toutes des choses comme ça. Alors ça peut être de la plus petite bactérie jusqu'à, voilà, on a toujours, il y a ces bases-là. La vie peut-être être autre chose.
Tout à fait.
Et donc, on se focalise sur des zones où on se dit, tiens, c'est à peu près similaire à la Terre, donc on a des chances, on est sur de la pure statistique. De toute façon, c'est ce que tu as dit clairement. Tu as dit
nos outils sont limités, quoi qu'il arrive, pour l'instant, même si ça se développe, bien sûr.
Mais on est sur des statistiques. Mais peut-être qu'on devrait aussi chercher autre chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi.
C'est ça.
Mais voilà, c'est peut-être aussi une notion d'onde, peut-être. C'est peut-être quelque chose de plus. On cherche plus sur des marqueurs chimiques ou biochimiques. On pourrait peut-être avoir des marqueurs plus physiques. On n'en sait rien. Enfin, c'est un vrai sujet que je trouve intéressant parce que du coup, on se focalise sur des endroits lointains avec des outils pas encore totalement optimaux. Ça doit être hyper frustrant quand tu es à leur place, mais hyper prometteur. Enfin, tu vois, ça doit être vraiment passionnant de suivre de les interviewer, en fait, ces gens.
Bah, tout à fait, oui. Alors là, j'ai plein de noms.
Si vous nous écoutez.
Exactement. Et on a beaucoup qui se trouvent, parce que l'équipe principale se trouvait donc à New York, mais là, on en a beaucoup aussi qui se trouvent en France. Et on a une vraie expertise là-dessus en France. Donc, peut-être qu'il faut qu'on leur lance simplement une invitation et puis ils viendront dans l'émission.
C'est ce que je te disais hors micro. Moi, je trouve fascinant ces gens qui consacrent du temps, de la matière grise pour des endroits où ils n'iront jamais.
Oui.
C'est fascinant, en fait. T'as une frustration qui est définitive. C'est-à-dire que tu sais que tu ne pourras jamais aller voir là-bas comment ça se passe. On n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Et donc, du coup, tu travailles quand même sur ces sujets-là. Je trouve ces gens-là ont une... C'est un métier de passionné, en fait.
Ah ben ça, c'est certain.
On est totalement dans l'irrationnel. Ça fait un bien fou, je trouve.
Eh ben écoute, je suis ravie si j'ai pu vous emmener un peu.
Si ils sont français, on va peut-être pouvoir les contacter.
Tout
essayer
à fait.
D'organiser, je ne sais pas, peut-être une interview à distance. Parce que je trouve ça passionnant. Comment on arrive à travailler sur ces sujets-là ? Et en ayant l'espoir de découvrir quelque chose hyper lointain, on considère que c'est de la vie et on pourra jamais le vérifier sur place. Ben c'est hyper frustrant.
Je pense qu'on se dit qu'encore une fois, là, je pense que c'est la même passion qui peut animer d'autres chercheurs dans d'autres
bien
disciplines.
Sûr, c'est la
de
même
ces
passion.
Découvertes, en
mais
fait,
je trouve que là, elle illustre très bien ce qui peut être moins flagrant sur d'autres catégories.
Oui, 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 c'est
ça que j'insiste là-dessus, parce que pour montrer aux auditeurs, justement, voilà, un métier de scientifique, c'est pas anodin, en fait. Quand on se lance dans des recherches scientifiques, c'est pas anodin. Il y a quelque chose, vous l'avez ou vous l'avez pas. Eh bien, ce quelque chose, là, tu viens clairement de l'exprimer, parce que franchement, des sujets hyper lointains, avec du matériel pas du tout optimal sur des découvertes hypothétiques où c'est la statistique qui joue et tu verras jamais le résultat, tu pourras jamais le prouver. C'est fascinant, voilà.
Ouais, non, c'est fascinant.
Comme nous sommes dans l'espace, très rapidement, deux petites informations. La première, parce que du coup on va rester un petit peu dans cette thématique pour l'instant, le 29 août dernier, l'astrophysicien et le spécialiste des débris spatiaux, il s'appelle Jonathan McDowell, il a fait un tweet. Alors on ne dit plus tweet ou je ne sais pas, comme on ne dit plus Twitter, maintenant c'est X.
Donc c'est XT, Xter, c'est bizarre.
Je ne sais pas.
Mais je ne sais pas comment on
avant,
dit.
Avant on disait qu'on faisait un tweet.
Exactement.
Là je ne sais pas, on fait un X, c'est un petit peu bizarre parce que faire un X pour moi ça veut dire autre chose, mais bon je ne sais pas, c'est très bizarre. Bref, Jonathan McDowell, spécialiste des débris spatiaux. Il indique que quelques nouveaux débris spatiaux ont été détectés autour d'un ancien satellite soviétique. Signe donc que ce satellite s'est fragmenté, ce qui arrive typiquement après un impact par un autre débris. Il pesait 200 kilos, cet ancien satellite de communication des forces militaires soviétiques russes. Il avait été lancé il y a plus de 30 ans. Il se trouve à une orbite dont l'altitude atteint près de 1400 km. Et à cette altitude, il n'y a plus assez de particules d'air égarées au-dessus de l'atmosphère terrestre qui pourrait faire office de un petit peu dragage atmosphérique, ce qui permettrait de réduire peu à peu l'altitude du satellite jusqu'à ce qu'il vienne plonger et se consumer dans notre atmosphère. Donc il demeure là-haut pendant des siècles. Et le problème, c'est qu'on fait bien sûr une surveillance continue de ciel et il y a un commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord qui s'appelle le NORAD qui a donc repéré ces débris autour de ce satellite Cosmos 2143. Ces fragments proviennent sans doute d'un choc entre le satellite et un débris, lequel on n'en sait rien. Ça n'avait pas été repéré auparavant, mais là, c'est donc une illustration une fois de plus que le danger qui sont représentés par ces débris spatiaux, une pollution orbitale, une population aussi, en fait, il y a énormément de monde, enfin ça devient très très compliqué et ça devient de plus en plus fréquent ce genre d'incident. Cet incident donc qui date de fin août, l'annonce de l'incident date de fin août, hein, l'incident a eu lieu il y a 2 mois à peu près, et eh bien ça suivait de quelques jours l'annonce faite par l'ESA qui est l'agence spatiale européenne qui concernait l'impact d'un gros débris par un autre et ainsi de suite, ça se fout sur la gueule là-bas, en fait, et c'est hyper dangereux, oui. Parce que du coup, on peut flinguer des satellites totalement opérationnels. Alors celui-là, ce satellite russe, bon, il avait un peu plus de 30 ans, je pense qu'il avait fait son temps, mais ça devient hyper, hyper compliqué. On en parle depuis quelques années maintenant, malheureusement. Mais étant donné que là, c'était un satellite russe, tu penses bien que les médias se sont fait un malin plaisir de relayer cette information une fois de plus. Autre information, et après on écoutera un petit titre pour une petite pause musicale, on va parler d'Ariane parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Ariane. Eh bien, cet été, l'Agence spatiale européenne a donc annoncé que le vol inaugural d'Ariane 6, ça y est, on arrive à Ariane 6, se tiendrait donc l'année prochaine 2024. Alors, au départ, on avait parlé de 2023. Bon, ils ont dit, on a un petit peu de retard. 2024, c'est un décalage qui était attendu étant donné les tests qui restent à faire pour qualifier donc ce lanceur Ariane. Les tests, en fait, ce sont des essais combinés à la fois pour l'étage principal, ça se passe à Kourou en Guyane, et pour l'étage supérieur qui se passe à Lampoldhausen, c'est en Allemagne. Hein. On rappelle que c'est essentiellement un partenariat franco-allemand. En Guyane, les essais combinés testant donc le lanceur et son ensemble de lancement ont pris un peu de retard cet été. Une campagne de tests avait eu lieu en juillet. Mais les équipes ont manqué de temps pour réaliser toute la chronologie du test et donc il y a un petit peu de retard et donc on reporte à 2024 et donc l'année 2024 ça va être génial parce que c'est le retour d'Ariane et ça on suivra bien sûr sur Graphite. Je me rappelle dans les années 2010 où on avait suivi, j'avais les yeux sur un écran et on avait commenté le décollage d'une fusée parce que ça tombait pile pendant une émission de Biotine. Donc j'ai demandé à l'Agence spatiale européenne de nous faire un lancement d'Ariane un samedi aux environs de 12h05-12h10 pour qu'on ait le temps de s'installer, prendre le micro. Ça serait génial. Non, sérieusement, 2024 va être une année formidable au niveau de l'Agence spatiale européenne parce qu'on parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle des États-Unis. On parle donc des Russes qui depuis un certain temps ont quelques problèmes. En fait, objectivement, je pense pas plus que d'autres, sauf qu'on communique un petit peu plus. Voilà, c'est une petite vengeance par médias interposés. Mais on parlait très peu, enfin de moins en moins de l'Europe depuis quelques années maintenant on peut le dire, hein, depuis la fin un peu compliquée d'Ariane 5 et donc là avec Ariane 6 alors ok il y a un peu de retard mais ça va être je pense et je l'espère passionnant 2024 avec l'espace et nous irons peut-être faire une émission en direct d'Ariane.
Ce serait génial.
Je laisse ma place, je serais incapable, je suis déjà malade dans un manège.
Non mais nous on regarderait depuis le sol mais ça doit déjà être hyper impressionnant.
C'est hyper impressionnant, je n'en doute pas. Connais-tu ce jeune artiste, je ne connais pas, il s'appelle Stromae, ça te dit quelque chose?
Mais bien sûr.
Et on l'écoute sur l'antenne de Graphite, à tout de suite. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je le relance. Ça nous a fait une petite... Voilà, c'est Stromae.
Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied. Et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile. Le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel. Dehors il fait soleil et dedans aussi.
comme une journée d'anniversaire. De 0 à ses 35 ans, mon style est clinquant. Je sais même plus trop comment j'ai fait. Je suis frais comme si j'avais 20 ans. Tu sais ce que ça fait? Non, c'est indécent. Je rigole pour rien, je souris bêtement. La vie est biscuit, comme une journée de déconfinement. Non merci, mon verre est à moitié rempli. Y'a les jours sans, les jours avec, ce sera avec ce coup-ci. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi? Si le bonheur des autres te rend malheureux, c'est que t'es un rageux. Si le malheur des autres te rend heureux, c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux, et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ces moments présents, en fait t'es juste dépressif. Tout ce que je sais, c'est que s'il se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière lui. Et s'il est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage viennent les éclaircies. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Y'a pas de débat d'idéaux, non. Comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Bonne journée, c'est ce que nous disait Stromae avec ce nouveau titre. C'est une nouvelle playlist qu'on a depuis la rentrée de septembre sur l'antenne de Graphite. J'ai l'impression que c'est la première fois que je passe du Stromae sur Graphite et ça me fait
c'est
fort
vrai,
plaisir parce que j'aime beaucoup cet artiste et je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est pas trop ce qu'il a, mais on sait que ça va pas très fort en fait, et c'est fort dommage. On continue. Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite et tous les mardis matin, 10h bien sûr pour la rediffusion. Carole, tu nous parles de...
Alors cette fois-ci, je vais parler des chatbots.
Ah.
Alors ça, je pense que... Non...
Quelle est la définition d'un chatbot?
Eh ben c'est, alors, c'est une très bonne question. Merci
c'est un
Jean-Noël.
Peu, c'est,
c'est une intelligence artificielle
de conversation,
qui,
de,
voilà, conversationnelle également. Alors après, il va y avoir différents niveaux, différentes. Elle va être plus ou moins sophistiquée. Il y a différents leviers qui vont sous-tendre les, parce qu'il y en a qui sont capables, donc en général, d'apprendre et d'évoluer. Mais là, ça va dépendre du type d'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte, donc de faire ce qu'on appelle du machine learning, des choses comme ça. Donc c'est des mots qu'on peut-être entendu déjà nos auditeurs, mais au final, ce qu'on voit, c'est qu'on en a de plus en plus avec lesquels on converse dans nos vies. Maintenant, dès qu'on est sur un site, qu'on cherche quelque chose, que c'est notamment pour des sites comme des fois les banques, les assurances, où d'habitude on avait un service en fait en ligne, un numéro de téléphone. Alors ça existe encore, mais on a de plus en plus en fait les chatbots qui sont là pour répondre et déjà, j'allais dire, prendre en charge toutes les questions les plus simples et qui ne nécessitent pas du coup d'avoir un interlocuteur humain. Donc ça permet entre guillemets un petit peu de faire le tri. Souvent, ce qui est quand même frustrant, c'est quand on a, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, enfin, et toi Jean-Noël, moi ça me l'a fait en tout cas à nombreuses reprises. On lui parle, mais en fait, on sait très bien que la question va être assez compliquée et on n'a pas la bonne réponse. On a l'impression d'un dialogue de sourds.
Bah oui, parce qu'il nous dit dans ces cas-là, nous vous conseillons d'appeler en fait un interlocuteur.
Bah, moi j'ai déjà eu des fins de non-recevoir, c'est-à-dire que bien sinon sûr, on ne trouve pas la solution. Et alors, si on imagine le futur, parce qu'on a de plus en plus, et c'est de plus en plus, j'allais dire, dans nos environnements, dans nos interactions, c'est surtout, est-ce qu'on arrive à les détecter ? Alors pour l'instant, moi je peux vous dire que oui, mais il en existe qui sont très forts, et donc c'est des chercheurs qui ont testé en fait plusieurs techniques permettant de déceler si, lors d'un échange textuel en ligne, on a affaire à un humain ou à une intelligence artificielle. Alors si je vous dis la phrase, alors c'est quelque chose de visuel, donc en fait on va avoir du mal à s'en rendre compte, mais je vous dis quand même les différents mots. Et donc cette phrase, qui est une question. L'eau arcane est-elle curiosité, mouillée, turbulent ou illusion, sèche, sauna ? Point d'interrogation. Alors en fait, si on regarde, moi qui le vois sous mes yeux, on a en fait une phrase finalement qui est compréhensible si on enlève les mots un peu étranges que je vous ai lus. L'eau est-elle mouillée ou sèche ? Et en fait, on a rajouté à chaque fois des mots en majuscules qui donc là paraissaient hors de propos. Hein. Arcane, curiosité, turbulent, illusion, sauna. Donc, en fait, prise dans son ensemble, cette question, elle ne veut rien dire. Mais là, quand on la voit sous les yeux, on se rend vite compte, quand on est en tout cas un être humain, qu'il ne faut pas tenir compte des lettres en majuscules et que le sens est au niveau de la phrase avec les lettres en minuscules. Donc ça, l'humain le voit, mais pas l'intelligence artificielle. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara vient de montrer l'efficacité redoutable de cette technique pour détecter en une seule question si en discutant en mode texte, donc avec un interlocuteur en ligne, on a affaire à un chatbot. Ce sujet, évidemment, il devient pressant avec l'irruption des grands modèles de langage à la fluidité impressionnante, hein, comme ChatGPT, je suis sûre que vous y pensiez tous. Généralement, il est possible de deviner qu'on a affaire à une intelligence artificielle à mesure que l'échange dure dans le temps. Mais ce n'est pas toujours clair. Ce projet a pour vocation de lever les doutes dès la première interaction. L'article de recherche, qui a été publié en libre accès, explore en fait plusieurs techniques en les testant sur les technologies d'OpenAI, GPT-3 et ChatGPT. Donc ça, c'est la même, j'allais dire, ça vient de la même techno. Sur l'équivalent développé par Meta, qui s'appelle Llama, ainsi que sur Alpaca, développé à l'université de Stanford aux États-Unis, et Vicuna, un projet d'étudiants de plusieurs universités américaines. Les deux derniers, donc Alpaca et Vicuna, ont été conçus à partir de Llama. Donc voilà, ils sont liés. Le principe revient à lancer un défi à l'interlocuteur et s'appuie sur la manière dont les modèles de langage apprennent à répondre, c'est-à-dire en se basant sur la statistique, les probabilités d'occurrence de tel ou tel mot, et non sur la compréhension du sens et l'analyse des symboles. Le projet a indéniablement quelque chose de ludique et sollicite des compétences qui n'ont parfois rien à voir avec la langue et les mots, mais avec la vue, le positionnement dans l'espace, le dessin. Donc si je vous prends un exemple, une méthode consiste à demander à l'interlocuteur le nombre de fois qu'une lettre donnée apparaît dans un mot imaginaire. Mettons le mot, alors pareil, il faut le voir, c'est assez visuel, éo, éo, této, avec des répétitions de lettres, etc. Combien est-ce qu'il y a de T ? Ou alors, voir si l'interface parvient à substituer telle lettre d'un mot par d'autres lettres. Par exemple, mettre un M à la place du P, un A à la place du E, etc. Une autre énigme qui a été posée, c'était pour mettre à l'épreuve les capacités de localisation. Par exemple, quelle lettre se trouve en quatrième position après le deuxième S dans... Donc, alors c'est en fait un mot avec des U et que des consonnes, pour savoir si du coup on arrive à voir en quatrième. Enfin voilà, il faut déjà trouver le deuxième S et compter la quatrième position à la suite. Est-ce que ça, l'intelligence artificielle est capable de le faire ? Les chercheurs ont aussi une approche opposée qui revient à détecter un chatbot parce qu'il a justement répondu correctement à une question nécessitant une mémoire inhumaine. Donc à l'inverse, voilà, si on se rend bien compte que c'est des capacités qui ne peuvent pas être celles d'un humain, on se dit que quand même c'est étrange. Et là, c'était dans leur cas, donner le nom de la capitale de chacun des États américains ou quels sont les 50 premiers chiffres de pi, voire plus simplement en soumettant des calculs impossibles à résoudre de tête. Chaque modèle de langage a été ainsi évalué selon 8 méthodes, avec plusieurs dizaines de questions pour chaque méthode, et ses performances systématiquement comparées à celles d'un interlocuteur humain. Au vu des résultats, deux techniques se détachent nettement, trahissant quasi immanquablement le chatbot, aussi bien entraîné soit-il. Alors, l'une des techniques, elle utilise l'art ASC2I, une pratique ludique bien connue des internautes et qui revient à saisir dans l'interface des caractères formant non pas des mots et des phrases, mais des dessins, en jouant avec la forme des lettres, les caractères spéciaux, les espaces et les renvois à la ligne. La plupart des modèles mis à l'épreuve échouent totalement à comprendre quoi que ce soit. Seul ChatGPT parvient, dans seulement 8% des cas, à décrire ce que représentent les dessins reçus. Mais la technique des lettres en capitale est sans équivalent. Donc la phrase que je vous ai lue tout à l'heure, tous les chatbots échouent à chaque question. Reste à savoir si déjouer ce genre de test pourra être intégré à terme dans l'entraînement des modèles. Car en fait, comme en cybersécurité, en détection d'infox ou de deepfake, vous savez, ces fameux contenus qui en fait sont des faux mais reprennent tellement la réalité qu'on ne sait plus faire la différence, une attaque déjouée a toujours pour intérêt de renseigner ses auteurs sur comment ne pas se faire prendre la prochaine fois.
Eh bien, merci Carole. C'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Ça me fait penser que il y a quelques mois maintenant, j'avais rédigé par ChatGPT l'édito de cette émission. J'avais dit, j'ai une émission, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, il m'avait rédigé. Et donc là, je me dis, c'est la fin de l'émission. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger. Et donc, ça s'est fait pendant ton article, ce que je dois dire à la fin, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, il me dit, chers auditeurs, c'est déjà l'heure de conclure notre voyage passionnant à travers le monde de la science. Nous avons exploré aujourd'hui des découvertes fascinantes, des avancées révolutionnaires et des idées qui façonnent notre avenir. Avant de fermer le livre de cette émission, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre curiosité. Votre intérêt pour la science est ce qui alimente notre passion et nous pousse à continuer à partager ces connaissances avec vous chaque semaine. N'oublions pas que la science est une aventure continue avec de nouvelles histoires qui se déroulent chaque jour. Restez curieux, explorez, n'hésitez pas à faire partie de cette aventure scientifique, que ce soit en vous engageant dans des projets de recherche, en lisant davantage sur les sujets qui vous passionnent ou simplement en continuant à poser des questions. Et pour ceux qui se demandent ce qui nous attend la prochaine fois, soyez assurés que nous avons encore de nombreuses surprises et découvertes à partager. Alors gardez un œil sur notre prochaine émission passionnante. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Restez curieux et continuez à explorer le monde merveilleux de la science. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça c'est ChatGPT, ça a duré 2 minutes pendant toute ma vu rédigé sur mon portable, voilà.
Oui, je trouve ça fascinant. C'était très très rapide pour arriver à un texte aussi complet.
J'ai dit, j'anime une émission, je dois conclure, qu'est-ce que je dois dire ? Et voilà, il me l'a rédigé. Je n'aurais pas dit mieux.
Oui, après, c'est vrai que c'est très...
C'est troublant. Hein.
C'est troublant. C'est troublant et en même temps, ça manque de la petite touche personnelle. Mais c'est vrai que, par contre, c'est hyper bien construit et c'est tout à fait...
Il me donne la base à moi d'agrémenter, voilà. Je trouve ça fascinant. C'est pour conclure ton article, c'est parce que...
Tu as bien raison, c'est tout à fait dans le thème. Non, mais c'est incroyable.
On est clairement là-dedans. C'est fascinant, ça s'est fait en 2 minutes.
Fascinant.
Il me
c'est
dit,
fascinant.
Voilà, j'ai plus rien à faire, en fait. Mais de toute façon, j'avais dit la dernière fois, dès qu'on aura maintenant aussi des animateurs virtuels, il n'y aura plus rien à faire. À la rigueur, je me permettrai de choisir la playlist, c'est tout. Et encore, je laisserai peut-être faire ça.
Et encore, ils sauront le faire. Donc, on verra, que deviendrons-nous à ce moment-là. Mais moi, j'aime bien quand c'est toi qui conclut. Même si c'est pas aussi, justement, c'est pas aussi long.
C'est fascinant, toi. Je vais le conserver, celui-là, parce que des fois, si un jour je suis un peu fatigué, je sais pas quoi dire, je vais garder ce texte. Mais je trouve, on est clairement dans ce monde-là, en fait.
Totalement.
Pour illustrer ça, on est clairement dans ce monde-là. Et du coup, effectivement, il y a encore des imperfections, et ton article le précise très bien. Mais là encore, j'ai aucune crainte, ça va être résolu, ça c'est pas un problème, c'est une question de patience. Donc on va avoir la patience d'aboutir à quelque chose de ultra performant.
Ça c'est clair, ouais.
Mais est-ce qu'on en a besoin ?
Et
qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que ça nous enlève ? Et toutes ces questions-là.
Exactement.
Alors là...
Et comment après vivre avec ? Et surtout, dans plein de cas, il faudra quand même en effet être en capacité de faire la distinction. Donc, ça pose plein de questions.
C'est largement dépassé au niveau de l'horaire. On va être obligé de vous quitter, c'est dommage. Mais en tout cas, merci Carole, je te rejoins la semaine prochaine.
Merci Jean-Noël, et bien sûr, je serai là la semaine prochaine.
ChatGPT nous l'a pas dit, donc je tiens à le préciser quand même.
Je serai là, il a oublié.
On se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Passez une bonne semaine, à bientôt, au revoir.
Au revoir.